D'abord, l'histoire de votre nom, Vincent, vous la connaissez un peu ?
Oui, un peu. C'est pas une histoire incroyable, c'est mon arrière-grand-père s'appelait Abner Lindenbaum, après Alfred Lindenbaum, et ils ont changé de nom en 1920. Et ils sont partis habiter à Londres. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait Alfred Lindon, et sa femme, qui s'appelle Fernande Citroën. Voilà.
Et Lindon, c'était le nom de votre père
Ah oui, oui. Donc, le nom de mon père, mon nom à moi, le nom de mon oncle, le nom de mes enfants. Oui, j'ai le même nom au cinéma que... J'allais dire que dans la vie, j'ai le même nom tout le temps. C'est mon nom, quoi.
Ah, ça, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes le même au cinéma que dans la vie?
Mais je sais pas ce que ça veut dire, le cinéma, mis à part que c'est une profession. C'est un mot qui est galvaudé depuis qu'on est tout petit. Dès qu'on fait un truc un peu incroyable, on a son père ou sa mère qui vous dit « Oh, écoute, arrête, ça va, arrête ton cinéma ». Donc, est-ce que c'est rendre la vie, c'est montrer le faux d'une manière très vraie, de montrer le vrai d'une manière très fausse, d'être encore plus vrai que vrai, être un peu moins vrai que nature. Je me pose pas toutes ces questions. Quand je travaille avec un metteur en scène, tout ce que je sais, c'est que je dis jamais, quand j'ai une question à lui poser, sur une scène, le matin, sur le plateau, je dis jamais, mais le personnage, à ce moment-là, il s'assoit ici ou il s'assoit là, ou je n'appelle jamais le personnage par son prénom. Je dis « je ». Quand je rentre, je m'assois là. C'est « je », moi, puisque c'est ma bouche, mes yeux, mon corps, c'est pas un être factice, c'est moi qui vais dire ces phrases. Et plus tard, c'est moi qui les aurais dites, qui auront entendu les réponses et qui auraient vécu ça. Donc, j'arrive pas très bien à savoir. C'est que le cinéma, c'est plus pour les metteurs en scène, cette question.
Combien de moi, combien de jeux?
Combien de moi, combien de jeux, c'est-à-dire?
Ben, vous dites que vous êtes moi et que vous êtes je à chaque fois que vous incarnez un personnage. Mais en même temps, vous n'êtes qu'un moi. Donc il faut le conserver, ce moi, pour pouvoir interpréter une multiplicité.
Alors, ce qui est formidable, parce que c'est que j'ai l'impression que là, le ton est donné, vous réfléchissez plus à moi, vous, que moi je réfléchis à moi. C'est des choses auxquelles je ne réfléchis pas consciemment.
Je vous vois multiple. Pourtant, vous n'êtes qu'un.
Ils vont devenir fous, les auditeurs. Entre moi, je pense qu'il faut être que moi, mais moi, je vous vois vous. Oui, je suis multiple, mais je ne pense pas, je ne réfléchis pas consciemment psychologiquement.
Voilà, nous sommes donc ce soir à The Russian Fortune et avec un invité, le docteur en droit Dominique Gorier, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pour cette soirée, qui sera spéciale Leibniz et la musique baroque. Donc, quel morceau venons-nous d'écouter ?
Eh bien, on vient d'écouter une cantate d'un des ancêtres de Jean-Sébastien Bach, qui s'appelle Johann Michael Bach,
parce que ça se dit Bach en allemand, ce qui veut dire le ruisseau, et qui était un exact contemporain de Leibniz, puisqu'il est né en 1648, Leibniz c'est 1645, et qu'il est mort en 1694, c'est-à-dire un petit peu avant que Leibniz ne meure. Et cette cantate s'appelle « Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ », ça veut dire « Ah, reste avec nous » ou « reste chez nous, Seigneur Jésus-Christ ». Voilà.
D'accord. Et donc, ce soir, nous allons aussi parler de William Christie.
Mm-hmm. Alors, c'était pas interprété par William Christie.
Oui, c'est ça.
C'était interprété par des musiciens allemands.
Ah,
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la philosophe Simone Veil, et non pas Simone Veil, explique que pour elle, il s'agit, à travers cette grève, d'oser enfin se redresser. Et je trouve qu'il y a un symbole très important qu'on va retrouver vraiment dans le combat aussi des filles de Chantelle. À un moment donné, on ose, on reprend le droit et on ose se redresser. Donc c'était une grève non pas politique, mais plutôt sociale, qui parle de dignité. Alors dignité, il en est également en question ce soir dans les deux grèves qui ont secoué ici à Saint-Herblain l'usine de Chantelle entre 1960 et 1980. Et c'est sur ces grèves-là que nous avons décidé de revenir ce soir avec notre invitée Ève Murray Canfort. Donc je le rappelle, vous êtes docteur en sociologie, vous m'arrêtez si les choses ont évolué depuis ce petit biotique, au Centre Nantais de Sociologie de l'Université de Nantes. Et en 2014, vous avez soutenu une thèse qui était intitulée, alors c'était un grand titre.
Vous pouvez le raccourcir.
Peux le raccourcir. Comment on pourrait le raccourcir d'ailleurs? Comment vous le feriez en 140 caractères pour Twitter?
La thèse qui va peut-être bientôt se transformer en livre s'appellera certainement « Lutter comme les mecs, genre du syndicalisme et je ne sais plus quoi ».
Et ben voilà, donc on a deux informations. La première, c'est qu'un livre va bientôt sortir.
Non, un livre est en cours de préparation.
Bon, c'est une très bonne nouvelle. Donc effectivement, nouveau genre de grève. Alors je le rappelle pour ceux qui auraient peut-être oublié, mais l'usine Chantelle fabriquait de la lingerie féminine, la très jolie lingerie féminine. Alors ça remonte quand même à 2014, cette thèse. Il y a 3 ans, vous me disiez tout à l'heure hors antenne, 500 pages... 6 ans de vie. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce travail que vous avez effectué, les rencontres que vous avez effectuées? Est-ce qu'il vous reste des sons, des moments un peu frissonnants comme ça, des choses qui vous, également peut-être aussi en tant que femme, vous ont marqué?
Oui, évidemment. Et déjà, si j'ai travaillé sur ce sujet-là au départ...